France Inter.
Rémi me chante la mélodie et voit que la moulin du Katanga. Du charbon a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Tu passes au log 2, 3, 7 dans le grand lobby. Si tu supports, ne passe pas les logs. Et en grosse pécane, on dragane même avec le brown. Code négé sur le switch avec ballon. Plein tout, j'grandis plus. Ma chaîne des combats de Daron. Il le voit, tu c'est carré seulement si c'est pas où. 0, ils comprennent pas c'est quoi ces tarots. Nos schémas vont les rendre paro. Pas cassé, viens pas faire le mot là, ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'il fallait bon chat comme un titan. Oh là, m'appelle pas le sang, j'ai capté dans mes projets, tu passes pas la mi-temps. La petite fait un truc que je la ouette pour qu'elle se complète, je la capte comme un téton. Petit, faut pas que je reste, la famille m'appelle, la douleur est présente. Ah, mais pourquoi tu quêtes? Je suis dans ma quête. Il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on les blesse. Oh, ça bégaye en brut. Je parle que le net. Grosse tempête à la Hesse. Baby, me chante.
Club.
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 Club. Laurent Goumard sur France Inter.
Avec Stormy Bugsy et Passy, période d'instabilité politique, le ministère amer repart en tournée pour les 30 ans de l'album 95 200. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir, salut. Bonsoir.
Avec Sheila, pour vous, c'est 333, nouvel et troisième album placé sous le signe du soutien divin. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Marion Guilbeault, bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent.
Au programme ce soir.
Toujours à l'écoute de la bande SM comme scène musicale, il sera question de paroles répétitives, de « est-ce que c'était mieux avant ?» et de la place du rap dans les festivals.
Côté club, en direct, c'est franchement ouvert.
Franchement,
Stormy Bugsy, Passy du ministère amer et Sheila sont nos invités côté club ce soir. Les deux premiers sont rappeurs, comédiens aujourd'hui, représentants de ce ministère amer né au début des années 90, pionniers d'un rap de cité, militants aux textes violents pour faire trembler la République. Vous les connaissiez, Sheila, alors que vous n'êtes pas de la même génération, ou plutôt si, puisque en fait, vous êtes né vous-même l'année de ce deuxième album, en 94. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait une programmation.
Ça ne me rajeunit pas.
Vous les connaissiez?
Bien sûr, évidemment.
Quelle période? Premier album, deuxième album, ou alors les mêmes, les albums solo, la carrière solo de chacun?
Ben moi, j'avoue être de la génération un peu single, donc j'ai jamais trop consommé les albums dans leur globalité, malheureusement.
Mais oui, par contre, ça sert à rien de faire des albums. Ouais.
Non, mais mieux vaut être honnête. Mais par contre, évidemment que j'ai croisé plusieurs fois musicalement certains titres du ministère amer et... C'est un honneur d'être avec eux ce soir.
Je comprends bien, cool. Pour nous aussi. Sheila, vous signez 333, décidément, c'était vraiment un club de numérologie ce soir. Troisième album avec un parcours plus récent. Le premier EP, c'était en 2017, Karma. Un parcours rythmé par des titres qui ont mal marqué, Sale chienne, Si j'étais un homme. C'était des hymnes que vous avez balancés très tôt pour répondre à la violence des attaques misogynes à votre encontre sur les premières vidéos. Ça va mieux maintenant? Ils se sont tous calmés?
Bah, je sais pas, je les regarde pas, donc.
Vous regardez plus.
Je pense pas. Est-ce que ça s'est calmé? Probablement.
Ouais, j'ai l'impression quand même.
Probablement.
Par rapport à la violence que vous avez subie au départ.
Ouais, mais c'est vrai qu'au départ, ça, c'était peut-être inédit à ce moment-là qu'il y ait le retour de certaines femmes dans le milieu. Et puis, maintenant, je pense que ça commence à.
Okay. Début des années 90, les femmes étaient rares dans le milieu du rap. Diams arrive à la fin des années 90. Kazé, elle, arrive au début des années 2000. Elles étaient peu visibles. Mais est-ce qu'il y en avait quand même?
Il y en avait, ouais, c'est ça. Avant, il y avait Alia, Bilov, Salia, Bilov. Il y en avait plus.
Bilov, Salia, Destiné.
Ouais, parce qu'on toujours, on essaie de nous faire croire que c'est Diams qui a commencé, mais pas du tout. Elles étaient déjà là.
Il y en avait avant, ouais. Avant. Diams, c'est vrai que c'est bien qu'elle ait cartonné parce que elle avait assuré, elle était partie dans les compilations de tout le monde, elle avait fait un peu toutes les familles du rap et à chaque fois elle avait été, voilà, elle avait été respectée.
Et à Garches, à Sarcelles, quand vous avez commencé, il y en avait?
À Garches-Sarcelles, non.
Non, c'était pas encore le lieu.
Non.
Il n'y avait pas de mercure un peu d'air.
Sheila, vous êtes construite, vous, avec quel repère, masculin ou féminin? Parce qu'à la base, vous êtes violoniste, très jeune. Pierre, père, pianiste, conservateur de Lyon, chant jazz. Donc j'imagine que les repères étaient de quel ordre au départ? Déjà rap?
Rap très jeune, parce que moi j'étais une grosse consommatrice d'MTV Base, donc rap et surtout américain, beaucoup d'R&B, beaucoup de soul. Et j'avais un frère qui consommait beaucoup le rap engagé français, donc évidemment Kerry, Youss, enfin voilà, tous les artistes qu'on connaît qui ont fait le milieu. Et donc j'ai toujours vacillé entre ces univers différents qui sont un peu à l'image de mon métissage en vrai.
Le métissage, on en parlera tout à l'heure. Ministère amer fête les 30 ans de son deuxième album, Retour dans les années 90.
Ministère amer, AMER, Action Musique et Rap. Vous êtes de Garches-Sarcelles. Vous en êtes à votre deuxième album qui s'appelle justement 95 200, qui est le code postal.
Bon, nous on arrivait en cours d'émission et quand on arrivait, on a entendu certaines choses. Monsieur Dittelbaum disait tout à l'heure, il parlait du respect pour les rappeurs, et comme on est les seuls représentants du rap ce soir, j'aimerais à dire que le respect, ça se donne pas, ça se prend. C'est la pitié qui se donne. Deuxièmement, je crois que l'intitulé de ce soir, c'est est-ce qu'il existe encore un esprit rock? Et ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est des gens qui viennent, qui disent qu'ils sont en train de se faire broyer par des machines. Nous, on demande à la machine de nous broyer, parce que quand elle va nous broyer, on va se faire de la caillasse.
Est-ce que votre rap descend du rock, les blues, du gospel?
Non, mais je crois qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une émission qui se fait avec des rappeurs, c'est le rap. Attends, dans d'autres émissions, c'est le rap vient des troubadours. Maintenant, c'est le rap vient du rock.
Je vous pose la question.
Demain, dans une émission, d'autres émissions, c'est ça, le rap vient de la Java et puis. Mais non, le rap, c'est le rap. Et voilà, ça vient du rock si vous voulez, ça vient de la Java si vous voulez. Et ça vient du ministère amer si vous nous aimez.
C'était vraiment le roi de la punchline, Kenzie, pour cette émission. Ça se discute en 95. Vous vous souvenez, ce mec Busy?
Bien sûr.
Vous y étiez?
Bien sûr, j'étais
là. Moi, j'étais pas là.
Non, vous n'y étiez pas, Bassi. Il y avait Stomy, il y avait
Kenzie. Avec Gynéco.
Et il y avait Doug Gynéco,
J'avais mon bandana aussi, je me rappelle.
Exactement, j'ai regardé encore, il était comme ça sur la tête.
La période Tupac.
Avec les t-shirts 95-200.
Ça, c'était super beau d'ailleurs,
Merci.
Et même eu un commentaire. Vous vous souvenez de la façon dont vous étiez traité à l'époque, dans ces émissions sur le rap, justement? Il s'était très bien défendu, il était vraiment formidable.
Non, Kenzie, c'est un génie dans les interviews.
Ouais.
Mais on était bien accueillis par Jean-Luc Delarue. On était avec le groupe Téléphone aussi.
Oui, qui était en face.
Waouh.
Ouais. Puis il y avait Little Bob aussi. Enfin, il y avait le milieu du rap et du rock.
Oui, mais à l'époque, on essayait chaque fois de nous mettre l'un contre les autres. Alors que non, c'est la même musique, c'est les mêmes racines. Mais c'est vrai qu'on venait d'arriver, il n'y avait pas eu beaucoup d'albums de rap, tout ça, donc fallait faire cette confrontation et cette.
Et on devait prouver. Hein. C'était une nouvelle culture qui arrivait, une nouvelle musique et un nouveau flow, des nouveaux sons, une nouvelle perception, conception.
Et puis même une nouvelle prise de parole, c'est-à-dire des choses nouvelles qui se disaient.
Et une nouvelle couleur aussi. Il n'y avait pas beaucoup de noirs à l'époque. À part Yannick Noah et la compagnie créole, pour voir un noir à la télé, c'était très rare. Basile Boli ou Tigana. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs à la télé avant.
Passy et Stomy Bugsy en tournée donc pour les 30 ans de ce deuxième album emblématique de Ministère amer, emblématique d'un rap qui se voulait français, qui se revendiquait français,
bien sûr,
qui ne cherchait pas de légitimité du côté des États-Unis. Un premier album de rap de cité, c'est comme ça qu'il avait été vraiment perçu à l'époque pour ce deuxième album, militant, qui documentait véritablement ce qui se passait là où vous étiez chez vous à Gare-Charcelles, sous Sarkozy, sous Pasqua, et vous meniez surtout aussi un... ça vous fait rire,
ouais, Pasqua, déjà... j'aime bien entendre le nom de Pasqua.
C'est vrai ?
Qui repose en paix, ouais. Ouais. C'était un bon ministre de l'Intérieur, un vrai qui cognait dur.
Ah ouais, qui vous a en plus...
ouais, qui a voulu nous foutre
caillassé.
Au trou. Ouais, ouais. Plusieurs fois, il nous a jamais eu.
Non, jamais. Non, mais c'est vrai. Jamais.
À chaque fois, il arrive en retard. Il portait plainte un jour en retard, deux jours, deux mois.
Vous aviez un bon avocat, d'ailleurs.
Oui, ouais. Maître Tricot, très bon avocat.
Qui vous a toujours sorti de l'affaire.
Ah, ouais. Je crois que je lui dois un peu d'argent, en plus.
Ouais, t'as pas payé. Je l'appelle.
Ah.
Eh ben, dis donc.
Vous meniez un rap revendicatif de gars aux origines antillaises, camerounaises, congolaises, et qui croyaient à une révolution noire à l'époque. Il y avait même, vous distribuiez des tracts. Des,
non,
des...
ça c'était faux.
Ah, c'était faux,
ouais,
ça?
Ouais, c'était un truc qui était sorti dans un magazine, comme quoi, Ministère Amer, on distribuait des tracts.
Des t-shirts.
Des t-shirts devant les trucs.
Si, la c'est vrai, je veux pas dire.
Mais, non, mais il y avait un mytho. Très militant, quand même, un pour une révolution fait. Noire à l'époque.
Ah, oui, non, on militait parce que c'était, ouais, on militait pour un éveil. Quand on a commencé Ministère Amer, on avait 15 piges.
Ouais.
Et on s'est dit, bon, on va faire comme tout le monde, on va essayer de faire comme les ricains, yo-yo, etc., raconter des histoires de... Et après, on s'est vite rendu compte qu'en ouvrant nos fenêtres, en regardant dans nos rues, il y avait des choses à dire, il y avait des choses, des questions à poser. On a regardé, on était des jeunes noirs ou arabes, on était mélangés sorciers, il y avait beaucoup de communautés, il y avait plus d'une soixantaine d'ethnies. Donc, nos potes feuges, nos potes rebeux, nos potes chinois, blancs, de toutes les couleurs, on parlait des uns des autres et on regardait nos potes, ils nous disaient, mais l'Afrique, vous êtes fait avoir. Existez un peu, sur le son de la rigolade, existez un peu, dites les choses, on regardait les choses sur le Vietnam, on donnait notre avis, on regardait Israël, on donnait notre avis, on pouvait tous parler des uns des autres. Donc même nos potes nous poussaient à nous réveiller.
À prendre la parole justement sur la condition noire en France, qui n'avait rien à voir avec la condition noire aux États-Unis. Ça, vous l'avez vite compris quand même, j'imagine.
Ouais, c'était totalement une autre réalité. Et surtout quand on montait à Paris, juste... On voyait la différence entre Sarcelles et Paris, c'était un monde. Pour nous, Sarcelles, c'était le village d'Astérix, tu vois. Et
le village de la résistance, alors.
Voilà, c'était la résistance. Et en plus, nous, on vient d'une vieille ville où c'était des Apaches là-bas à Sarcelles. Donc partout où on allait, on avait cette réputation aussi qui nous collait à la peau.
Sulfureuse. Ouais, Sarcelles, ouais, c'était des villes champignons, parmi les premières villes champignons. Donc repère même d'anciens rockers à l'époque des blousons noirs. Il y avait déjà des bagarres de blousons noirs à Sarcelles. Donc à Sarcelles, il y a toujours eu une réputation comme ça, toujours eu une atmosphère de conflit, de bataille, de dépassement de soi, je dirais même plus.
Vous aviez un service d'ordre d'ailleurs à une époque ou pas ?
C'est le quartier, hein. C'est le quartier, quand on allait en concert, ouais, comme presque tous les groupes de rap, on se baladait avec toute notre ville, tout notre quartier, ouais.
Pour ces 30 ans, je vous ai demandé trois titres qui ont marqué ce parcours. Le premier.
Aigre et maigre, vénère sur les nerfs, du AMER non résignataire. Mon ministère est suspect dans l'enquête, mais personne n'arrête des mecs et du guet-tête. Donc que justice soit faite, expert et la conquête. Plus de fête à la tête, mon groupe s'illustre et frustre les croyances qu'ils nous mettent en France depuis l'enfance. Avec la belle histoire de France, où sont les manigances? Le savoir est à revoir, je suis à part dans l'histoire. Prépare le cigare, j'arrive, c'est obligatoire. Le savoir est une arme, maintenant je sais.
Il ne fait pas qu'un grand
Le savoir est une arme, maintenant je sais. Le savoir extrait de ce premier album, Pourquoi tant de haine? Vous avez choisi ce titre. En quoi il est marqueur de votre parcours à tous les deux et à tout le ministère amer?
Le savoir est une arme, c'était notre logo. C'était le logo, ça a beaucoup été repris jusqu'à aujourd'hui, etc. Et nous, c'était aussi notre leitmotiv. C'était, tu peux apprendre n'importe où, tu peux apprendre à l'école, tu peux apprendre sur les bancs dehors, mais l'important c'est d'apprendre. Avec la connaissance, on avance. Et je pense que le savoir, on en avait besoin, nous, déjà, pour savoir qui on était, où on se positionnait dans la vie, dans le monde. Je pense qu'en Afrique, il y en a besoin. Je pense que dans les quartiers, il y en a besoin de beaucoup de savoir. Donc, on poussait les gens à se documenter.
Surtout que ce savoir-là, sur vos origines, par exemple, c'est pas du tout l'école qui a pu vous le donner.
Ah non, pas du tout. Il fallait le faire par nous-mêmes. On a beaucoup bouquiné au début, etc. En plus, dans notre esprit rebelle, quartier, un peu rien à faire... On voulait aussi être assez assidu là-dessus. On était ministère amer, c'était une association au début à MER. On était derrière beaucoup d'associations, de banlieues, de maires illettrées. Il y avait beaucoup de problèmes dans les quartiers, donc on a vu un peu tout ça. Et on poussait les gens derrière ce combat de ministère amer à s'éduquer, à s'élever au maximum.
Deuxième titre, Le temps passe.
Et le temps passe, pourtant je le regrette.
casquette blanche, mon RER, l'encre a coulé dans ma carrière à temps plein. Viser le haut, contemple mon temple et légendaire, mon air amer, mon teint. Mes rêves sont restés les mêmes. T'emporter le flambeau, représenter l'honneur des miens.
Mes baskets blanches, ma grande gueule, de l'encre sur les mains. Mon stylo était meurtrier, coupable, ennemi numéro 1. Entre merde et pertes blanches, j'ai le coup pour la revanche. Boxeur, breaker, rappeur, acteur, attitude franche.
Alors j'avoue que ça m'a étonné que vous ayez choisi ce titre.
Là t'as fait le grand. En fait on voulait faire le premier, un autre début et celui-là à la fin. Montrer un peu l'évolution. T'as fait le savoir est une arme. C'est premier un des premiers albums, même dans le rap on est là.
Et là directement j'ai voulu passer à Johnny. Pourquoi vous avez choisi ce titre en duo avec Johnny? En quoi c'est marqueur de votre parcours?
Parce que
qu'est-ce que ça représente?
C'est une espèce de consécration, étant d'où l'on vient, nous, Sarcelles, Ministère Amer. Pour moi, Ministère Amer. On aurait pu se retrouver en prison avec eux. En ce moment, on est en répétition.
Oui.
Et quand on.
Il y a des morceaux d'ivoire.
Et je rappe les morceaux qu'on rappait à l'époque. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait dehors? On aurait dû nous mettre en prison. Pasqua, qu'est-ce que tu as fait? Pasqua.
Ils ont vraiment essayé, Charles. Mais justement, quand vous écoutez les titres aujourd'hui que vous avez rappés et que vous avez écrits à l'époque, comment vous les regardez? Vous souriez parfois?
Oui, on sourit parfois. Ouais, c'est vraiment. Tu sens ton stylo qui a 17, 18, 19, 20 ans.
Bah oui.
Tu sens, il y a des choses que tu dirais pas pareil aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire ce saut entre début de carrière, Ministère Amer, et on a eu une évolution dans nos carrières solo, beaucoup de choses, beaucoup de disques vendus, la création de Secteur A. On a pu avancer avec notre famille, avec des potes autour de nous, qui ont tous des carrières, et jusqu'à aujourd'hui, les Arsenic, Negmaron et tout. Donc, fort de tout ça, fort de toutes les compilations, les dealers de Zouk, les films, tout ce qu'on avait fait. On s'est dit, bon voilà, Johnny voulait faire un titre avec nous déjà à l'époque. Il voulait faire le remix d'Allumer le feu et on n'était pas prêt. C'était pas loin du premier titre.
Ah oui, d'accord, déjà il vous avait repéré à cette époque-là.
Johnny il sentait le truc, il voulait de la sauvagerie.
Vous l'avez côtoyé, vous êtes allé à Cannes avec lui, sur un bateau, après, il vous avait bouffé.
Mais c'était pas que coucou. Tu sentais le bonhomme.
Ah bah non,
que
heureusement.
Non, mais parce qu'il y avait des guignols qui avaient installé une image de lui, mais quand tu bossais avec lui, tu sentais le daron, tu sentais le taulier, il est pas resté là-haut pour rien, quoi.
Troisième titre, vous avez choisi Cours plus vite que les balles, extrait du deuxième album qui fête ses 30 ans.
Avec mes sauces, oh mousse, il n'y a que des fausses chattes qui tapent, qui se gâtent, qui se grattent. Mais cette fois-ci, je laisserai ta rate dans les gouttes 4h du mat. Je m'arrache à pied, direction PLC avec le GANG. Les vitrines qui les a brisées, c'est lui, c'est moi, c'est toi. Résultat à la ratilla, quand on passe, l'herbe ne repousse pas. Dindon, voici les poulets, les forces de l'ordre nous donnent l'ordre de stopper. Paix sur ma horde, on s'est tous arrêtés. Les flingues nous braquent, ça va mal se terminer. Les bleus bourrés au blanc ont vu rouge.
Nique, nique, nique vos mères, faut qu'on bouge.
Pas de halte, je cale, carbure à la malle. Slalom, stom, et la gomme, et oncle Dom, Tom donne le maximum. Et voilà que je les devance, prenant même une large avance. Pour leur mère, GDR, ministère, par Lucifer. Les indigènes sautent les barrières, les blancs savent pas sauter. Mais qui m'a bluffé? J'étais Kunta Kinte. On voulait mettre les fers, se reste les coups de sommation ou mon exécution, prêt à l'éjection. Plus vite que Carl, plus vite que Mistral, plus vite que Serval, plus qu'une fuite de squad. En zig, en zag, en spi, en rage, plus vite que les babababales.
Cours plus vite que les balles,
c'est la peine maximale où la pierre tombale.
Cours plus vite que les balles,
c'est la peine maximale où la pierre tombale.
Où sont mes sauces? Où est Misto? Tu le sais, négro, c'est chacun pour sa peau. En cas de dispersion, on sait où se retrouver. Toutes les routes mènent au QG, cette fois pas de garde à vue pour délit facile. Je vais pas passer de la fouille au corps à la fouille aux fesses. Son Altesse double S prend ses jambes à son cou. Ciao, je finirai pas comme Ciao Sescu. Première, deuxième, à la Speedy Gonzalez. Des coups de feu fusent dans le décor. J'aperçois la gare du Nord, tandis qu'ils me veulent. Vive ou mort, je saute un mur comme sur des bombes de peinture, comme dans le temps.
Cours plus vite que les balles, c'est votre troisième titre marqueur, extrait du deuxième album, 95 200. En quoi il est marqueur, plus particulièrement ce titre que vous avez choisi? Vous voyez avoir vraiment du plaisir à le réécouter, Passy?
Ouais, parce que c'est un titre qui... Ça raconte une fin de soirée, comme ça se passait beaucoup dans le temps, ou comme ça se passe beaucoup aujourd'hui, où on sort de boîte et contrôle de police et tout le monde part un peu à droite, à gauche, et ça on l'a vécu plusieurs fois dans nos vies de banlieusards. et on voulait le traduire dans un morceau.
Mais même au niveau de la prod, hein, il y a quelque chose.
Ouais, au niveau de la prod, c'est Getch, donc un petit bonjour à Getch. Et c'était la première fois. Enfin, Getch est assez fou. En fait, quand vous écoutez bien, la rythmique, elle est faite avec un barillet et un coup de feu. Donc, il est tellement dingue notre concepteur musical. Regardez, je vous ai fait un son et tout. Le beat, je l'ai fait juste avec avec le barillet. On a écouté ça, on a dit bon voilà, cours plus vite que les balles dessus quoi. Donc même musicalement ça colle.
Ouais. Sheila, comment vous écoutez ce genre de titre aujourd'hui?
Bah en fait,
ils ont 30 ans, ils ont votre âge.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est fou parce qu'ils sont intemporels.
Ah bah oui, là c'est vraiment les grands classiques.
Et en fait, c'est là où on se rend compte de l'évolution de la musique, mais qu'il y a des classiques qui resteront toujours quoi. Parce que musicalement, même dans les morceaux précédents, enfin il y a un truc organique qui est indéniable et qui traverse les époques. Avec ce sentiment que ça vieillira jamais quoi.
C'est une question d'héritage. 30 ans pour cet album. En concert, comment vous allez le reprendre? Est-ce que vous allez faire comme R? Je ne sais pas si vous l'avez vu en concert. R est en train de reprendre intégralement leur tout premier album en concert, du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes aussi conceptuel que pour ce
non, on a voulu, au début on a voulu le faire. Au début on est parti dans
pour
ça.
Les 20 ans on l'avait fait à l'Olympia.
On avait fait ça à l'Olympia
comme ça,
pour les 20 ans.
Du début jusqu'à la fin, ouais. Intégrale. Ouais. Et donc là?
Là, il faut évoluer un peu, faut changer un petit
c'est
peu.
C'est-à-dire
on va jouer. Bah,
on va jouer un petit peu. On va les faire évoluer. Il faut qu'on fasse aussi voyager tous ceux qui vont venir. Donc ils auront la base de ça, mais quelquefois on va se faire des petits remixes, les faire partir. On a un DJ, on va en profiter, on va faire revivre un peu tout ça.
Vous êtes tous les deux. Vous êtes
Getch,
combien?
Getch, il a retravaillé des sons.
Ah.
Il a retravaillé des sons de Ministère Amer. Mais on sent toujours cette petite touche maléfique. Il a une touche bizarre dans les sons, la façon dont il triture les sons. Donc et aussi, faut pas mentir, il y a plein de gens qui connaissent pas la carrière de Ministère Amer, qui nous ont connus aussi grâce à nos carrières en solo.
Tout à fait, oui.
Et on va faire aussi des titres aussi.
Pour, ah oui, donc une session de rattrapage.
Ouais, pour un que ça se termine peu, aussi en feu d'artifice.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup, parce
que minimum, ouais, parce qu'au début, on s'est dit tout. Après, voilà, on a...
Ouais, 70% des titres, ça sera Ministère Amer après nos titres en solo aussi.
Et on est sur scène, on est avec Driver.
Doc Génico, il sera là ou pas?
Et Papillon. Peut-être pour la dot parisienne, on va voir pour Bruno. On ne sait pas encore.
Peut-être, on ne sait jamais avec lui.
30 ans plus tard, le rap s'est imposé comme première musique en France. Il a tout contaminé, la variété, la pop, à moins qu'il ne se soit dissous dans ces genres. Ça, c'est différentes hypothèses. On a rencontré ici un rappeur qui nous dit que pour l'instant, pour lui justement, le fait que le rap est comme ça... Il ne pensait pas que le rap a contaminé les autres choses. Il pensait que le rap, lui, s'était dissous dans tout le reste. Il y a deux thèses. Je ne vais pas vous faire jouer le rôle des tontons, mais j'imagine qu'on vous pose toujours la même question. Comment vous regardez ce qui est devenu le rap? Du côté de la surenchère, la trahison, l'expérimentation? Comment
vous regardez ça? Tu peux pas empêcher l'évolution d'une musique, l'évolution de... C'est vrai que j'ai un fils qui, s'il rappe demain, il va pas faire la même chose que moi, c'est normal. Il aura avalé tout ce que j'ai fait, il va dire « Ah, c'est bien, toi tu faisais comme ça, moi... » Voilà, il y a Internet qui arrive en plus. Donc le rap colle à la société, donc si la société elle est plus Internet, le rap sera plus Internet, tout simplement. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, la conception d'un texte, comme on le faisait nous à l'époque, comme une dissertation, sujet, verbe, développé sur...
Ah, vous le travaillez comme ça à l'époque?
Quand tu regardes bien les textes des raps d'IAM ou nos raps à l'époque, c'était ça, hein, tu parlais d'un sujet, tu le développais. Aujourd'hui, le rap d'aujourd'hui, avec tout ce qui est punchline, c'est un peu Instagram, quoi. Tu passes d'une image à une autre, une punch à une autre, et le sujet reste global.
Et surtout qu'ils arrivent la plupart aujourd'hui en studio et improvisent carrément sur la musique.
Certains.
Ouais.
Certains,
mais ouais, pas mal quand même.
Non, mais il y en a d'autres qui ont des plumes de malade. Ça m'étonnerait que Damso improvise ce qu'il fait. Il a des textes de dingue. Il doit prendre encore du recul pour les écrire. Il y a d'autres rappeurs qui ont des belles plumes aujourd'hui.
Après, il y a le rap de maintenant. Il y a des très très belles choses. Il y a plus de mélodie, il y a plus d'espace, plus de flow. Il y a des très très belles choses. Bah, Chila et Kik.
Ah ouais, on va voir ça tout à l'heure. Vous restez avec nous,
on a rendez-vous. Elle est là pour montrer que le rap a sa plume et sa force et son fond.
Avec la jeune génération. Bien on a sûr. Rendez-vous avec Chila dans quelques instants, avec Marion Guilbeault, juste après Yoa. C'est nul sur France Inter.
Je me sens nul tout le temps. Je passe mes journées à faire semblant. Comme l'héroïne flippante d'une série dramatique sur les adolescentes. Y'a rien à faire pour que ça redescende. Mais quel enfer, c'est la présence.
que l'on n'a pas vécu, celles qu'on a perdues. Les petites filles qu'on a déçues. Si je le pouvais, je recommencerais, je réinventerais mes rêves pour qu'ils ne meurent jamais. Je me sens nul.
Après Yoa en playlist sur France Inter, c'est au tour de Marion Guilbault pour la bande SM comme scène musicale.
Côté.
Sur France Inter.
Entendu sur la bande SM, cette vraie question de boomer. Est-ce que la musique est devenue moins bonne qu'avant? Si ça, c'est pas une question de boomer à son pépère, je ne m'y connais pas. Vaste débat donc, soulevé par Arnaud Fischer dans Ouest France, suite à une étude de Scientific Reports, qui révèle que les paroles des chansons seraient devenues plus simples et plus répétitives au cours des 40 dernières années. Étude basée sur 12 000 chansons depuis 1980, qui constate que c'en est fini de la poésie de Dylan, des Beatles, de Freddie Mercury. Bah oui, depuis 1980. À part les textes de Taylor Swift, tout serait d'une pauvreté affligeante, même le nombre de mots aurait diminué dans les chansons.
Et c'est vraiment la réalité?
C'est un peu plus nuancé que cela. Pour le journaliste Sofiane Fanen, impossible de comparer les époques. Dans les années 80, on regardait tous les mêmes films, on écoutait tous la même musique. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, et si les paroles sont devenues plus simples et plus répétitives, c'est aussi à cause du mode de consommation de la musique et de l'écoute sur les portables. Ce qui est sûr, c'est que pour accrocher l'attention sur les plateformes de streaming, il faut des textes clairs, faciles à capter. Et comme une chanson n'est considérée comme « consommée » entre guillemets que si elle est jouée pendant au moins 30 secondes, les chercheurs pensent que cela a conduit à des mélodies et à des paroles plus simples, identifiables dès le début d'une chanson.
Pourtant, c'est vraiment le but de la pop, d'accrocher tout de suite l'auditeur, en fait.
Bien sûr, il y a toujours eu des chansons très très basiques, hein, que ce soit dans le rock, dans la variété. Alors, ce qui a peut-être le plus bougé, c'est le niveau des paroles dans le rap. De moyen d'expression d'un malaise social, dans les années 80-90, le rap serait devenu aujourd'hui une musique pour s'ambiancer. Pourtant, l'étude révèle aussi que le nombre de mots liés à la colère a augmenté depuis 1980. Une hausse peut-être liée à la situation politique très polarisée.
Alors, ça veut dire que c'était mieux avant ou pas?
Ben c'est juste différent en fait. Hein. Aujourd'hui, la musique est devenue tellement plus facile d'accès et ça, c'est une chance. Des titres et une écriture exigeants, il y en a toujours. Il suffit d'être curieux, de chercher, d'écouter Côté Club du lundi au vendredi. Et de l'exigence et de la diversité, il y en avait sur scène avec des festivals de rap qui ont cartonné ces derniers temps. Il y a eu le Golden Coast à Dijon qui a rassemblé les 13 et 14 septembre presque toute la crème du hip-hop hexagonal avec près de 20 000 spectateurs. Le Yardland en juillet dernier, c'était sur l'hippodrome de Vincennes. Ou encore le Grunt ce week-end qui fêtait sa troisième édition en misant sur l'émergence avec Isha, Jade, Ziné, Baby Solo 33 entre autres. C'est un papier dans Libération signé Brice Miclet qui insiste sur l'éclosion d'une culture d'une culture festivalière au sein du public rap, pourtant presque inexistante il y a encore 10 ans. Il y avait déjà eu quelques tentatives dans les années 90, mais là, à l'air libre, sur plusieurs jours, hors d'un cadre urbain, c'est tout à fait nouveau. Jusque-là, c'était les festivals de musique actuelle, de rock en gros, qui incluaient du rap dans leur programmation. Ils étaient bien obligés, vu le succès du genre. Mais au fil du temps, pour lutter contre cette condescendance, cette méfiance, cet ostracisme, eh bien le rap a créé son propre écosystème et les événements se multiplient. Après, organiser un festival de rap ne veut pas dire non plus ramasser un max de moula, Laurent. Hein. Je vous vois déjà faire vos calculs. Comme partout, les cachets des artistes explosent, les artistes arrivent avec des scénographies démentes, coûteuses, mais ce qui est sûr, c'est que le public semble de répondre de plus en plus présent et que le rap est devenu une musique comme les autres. Alors, Sheila, Stomy, Passy, un commentaire sur ce qui a été dit dans cette bande SM. Les textes qui se simplifient du fait de l'écoute sur les plateformes. Vous êtes sensible, vous, Sheila, à ça? Vous faites attention quand vous écrivez à ça?
Ben, c'est vrai que moi, j'ai commencé le rap en étant vraiment dans la mentalité de faire honneur à la discipline. Donc, c'était hyper important pour moi. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait du rap. C'était pour transmettre un message, avoir l'exercice de la technique. Il y avait vraiment cette envie de prouver que j'étais aussi à la hauteur de cette discipline. Puis vient le moment où on commence à rentrer dans une industrie et moi j'ai quand même eu une période où je me suis laissée aller un peu à la fainéantise lyricalement et que j'ai peut-être fait un peu moins d'efforts, en tout cas sur certains titres, parce qu'évidemment l'amour de l'écriture revient toujours au galop, mais il y a quand même eu un moment où je me disais peut-être que le public est un peu moins exigeant sur les textes, en tout cas c'est quelque chose que j'avais l'air de constater. Et puis sur l'album là que je viens de sortir, j'ai vraiment insisté pour retrouver cet amour de l'écriture. Alors, est-ce que je me prends autant la tête sur les assonances et les allitérations que je le faisais au début? Peut-être pas, mais en tout cas, je ne veux plus faire une musique qui n'aura pas de sens à mes yeux. Et pour moi, le point d'honneur reste l'émotionnel et en tout cas le sens d'une histoire racontée.
Et de votre côté, Ministère Amer, est-ce que monter une tournée aujourd'hui, en 2024, c'est plus facile que de la monter dans les années 90? Il y a moins de méfiance, il y a moins de condescendance?
Est-ce que c'est plus facile? Oui, c'est plus facile aujourd'hui. Dans les années 90, le ministère Amer, c'était interdit.
Mais oui.
Il fallait l'autorisation préfectorale. Là, le fait que Stomy et Bugsy soient devenus un gars de TF1.
C'est vrai que ça aide.
Ça aide.
Depuis que t'es devenu jury à la Starac, c'est plus facile pour nous.
Ah, c'est comme ça.
Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Hein, ouais, de toute façon, là, vous en avez pour des années. Hein. Non, là, c'est le même pet show maintenant.
Là, je suis fatigué. J'ai reculé ce matin.
Stomy, il a aucune répartie. Là. Non, il subit coup sur coup.
Il en profite.
Donc, non, oui. J'ai perdu
plus facile.
Le fil.
Plus facile aujourd'hui, peut-être.
C'est un peu plus facile. Mais moi, j'ai un autre truc à dire sur l'évolution de la musique. Moi, c'est juste sur le système de diffusion et de consommation de la musique que j'ai un problème. Tout le monde est là, tout le monde kiffe le stream, etc. Nous, on avait fait un truc à l'époque, quand le stream est arrivé, on voulait la licence globale.
Oui.
Ça veut dire télécharger un titre, payer 1 €.
Oui.
Aujourd'hui, le système, ça c'est par rapport au distributeur, moi, c'est mon truc de tonton, on doit aussi le faire, un peu donner des coups de gueule, c'est tu payes un abonnement à Carrefour, et tu rentres tous les mois, tu prends ce que tu veux, c'est ce qu'on subit, nous, les artistes.
Exactement.
Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on reparle de ça, avec des distributeurs qui, eux, font des publicités à droite, à gauche, et même un Snoop Dogg paye, râle aux États-Unis quand il reçoit 60 000 $ pour des milliards de streams.
Voilà. Exactement, ouais.
Donc, où est passé l'argent de la musique? C'est pas dans nos poches. Il y en a de plus en plus. Mais justement, on devrait revenir à télécharger un titre 1 €. On donne 1 € à un clochard. On peut au moins donner 1 € à un titre qu'on aime, pour un artiste, pour soutenir, pour la création.
Et vous tentez de mobiliser quand même d'autres artistes sur cette question?
Je vous lance, vous êtes France Inter, à vous de faire. On doit défendre les artistes, défendre la musique. C'est un peu inadmissible, vous payez ce que vous voulez à Carrefour, vous rentrez, vous prenez ce que vous voulez dans le magasin.
C'est une bonne idée, en fait.
Jamais personne ne l'accepterait dans la grande distribution, il n'y a que nous, les artistes, qui subissons ça, et ce n'est pas normal.
Il est déjà grand pour son plus jeune âge, Jewel Usain est dans Côté Club.
Yeah. C'est sur moi que tout reposait, je le sais. Pris le soir quand le ciel tire sur le mauve. Faut sortir la tête de l'or. L'impression que je suis réel depuis des siècles. Oh. L'impression.
ville pour un peu de money. J'suis debout à 9h pétante, le sort de ma famille en dépend. J'me remets en scène, hey. T'as raison, Pépon, t'iras plus vite que nos bah oui, on le sait.
J'sais plus si je le fais pour moi ou si je le fais pour les autres. Pourvu que les autres prient pour moi. J'sais plus si je le fais afin de réparer mes fautes. Ou simplement parce que j'aimerais plus de pouvoir. C'est sur moi de reposer, je le sais. Pris le soir quand le ciel tire sur le monde. Faut sortir la tête de l'eau. Baby, je me sens ready depuis des siècles. L'impression que je suis ready depuis des siècles. Ready pour ce shit.
Tu connais ma façon de briller de temps en temps. Booste mes refs à ma façon de rimer. Le frangin est transcendant. Mais qu'on a dit bye à toutes les majors qui nous observent. Tous les serpents dans les hautes herbes. J'en ai douté mais je prospère. De toute façon je me sentais trop high pour les autres cercles, hey. Et j'ai un truc à moi frère. Comme un grand feu de forêt. Je suis venu dans le game comme un étranger. Je vais repartir à bord d'une foreign. Est-ce que j'ai tout ce que je voudrais? Non. C'est une question de temps. Et j'ai pigé ce qu'il me fallait. Pour devenir grand, bah j'ai pigé. Et c'est maintenant qu'il faut être grand.
C'est sur moi que de reposer, je le sais. Pris le soir quand le ciel tire sur le monde. Faut sortir la tête de l'or. L'impression que je suis rééduqué du siècle. Oh. L'impression que je suis rééduqué du siècle.
Côté club.
La toute première scène que j'ai faite, j'avais, je sais pas, 10 ou 11 ans. Je me souviens de ce premier jour que j'étais habillée tout en blanc et j'avais trop peur, mais j'avais kiffé. Quand tu te retrouves dans une salle de concert et que tout le monde chante tes mots qu'à la base t'as écrit pour toi et qu'en fait tu te rends compte que ça fait écho chez les gens, c'est pas un rôle que j'ai cherché en fait. À la base je cherche à me soigner moi.
3, 2, 1, 5. On m'a pas appris à gérer les drames de la vie donc je suis parti en vrille, ouais.
À la base je cherche à me soigner moi. Ça marche, Sheila ?
Bah, ça va plutôt pas mal, hein.
J'espère, je vous pose la question, parce que dans ce nouvel album, je lis les titres, sombre, dos à dos, à l'envers, le goût de la solitude. Moi, je me suis inquiété.
Non, c'est... Dit comme ça. Mais non, mais parce que...
On justement, si on peut l'écrire, c'est que ça va mieux.
On exorcise à travers l'art et ce dernier projet, il parle d'une relation qui se délite, les fameux 3 ans. Et on passe quand même par plusieurs étapes avant d'entamer une rupture et ensuite un deuil. Et ces étapes, elles sont jamais trop sympas à constater quand elles sont aussi froides. Enfin voilà, il y a quand même un truc dans les relations où à la base on est... un être aimé, on aime une autre personne, il y a quelque chose de sain, de chaleureux, et quand tout ça se délite, forcément ça a des conséquences. En revanche, le fait de le poser sur la feuille et puis de le constater et de se rendre compte que c'est le cycle un peu logique de la vie et que toutes les relations peuvent passer par ces étapes-là, ça devient salvateur quand on le comprend et qu'on l'accepte.
Et ça hante tout ce troisième album, 333, les questions de rupture, d'introspection, de deuil. Pour Ego, le deuxième album, je lisais qu'il avait été conçu dans la douleur avec une centaine de titres enregistrés, centaines, pour n'en conserver que 18. C'est fou, ça veut dire que vous étiez mis une pression de dingue à l'époque pour le deuxième album ?
Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai pris conscience là l'année dernière que pendant 6 ans, j'avais pas pris de vacances et que j'étais vraiment tout le temps en studio. Mais moi, j'aimais trop ça. J'aimais trop ça parce que je me suis dit, je vis de ma musique. Il y a pas de raison à ce que je vive autre chose. Et en réalité, je me suis rendu compte avec du recul que sur ce deuxième album, je m'étais pas trop donné l'opportunité de vivre et qu'en fait, quand on met de côté ces instants de vie qui sont essentiels à la créativité, eh ben on se retrouve à fonctionner comme une machine. Or, c'est les moments de vie qui nourrissent et les textes et nos émotions et notre âme et nos liens. Et moi, c'est vrai qu'après le Covid, etc., il y a eu quand même une grosse forme de rupture et dans les liens et dans la sociabilité. Et je m'étais uniquement focus sur la musique. Ça n'a pas fait un album médiocre, mais un peu plus en rupture avec une forme d'humanité, quoi.
Stomach Busy, je vous ai vu sur le point de dire quelque chose, de commenter, ouais.
Non, j'étais en train d'apprécier ce qu'elle était en train de dire, parce que c'est vrai que pour nous les artistes, quand on a des galères, c'est du pain béni pour la création. Et c'est vrai qu'en ce moment, moi je suis beaucoup en studio, et je viens de terminer mon dernier album, et j'avais déjà envie d'enchaîner un autre.
Eh oui,
et il y a des amis qui m'ont dit, calme, expérience ta vie, va, kiffe, pour pouvoir après le mettre dans ta musique. Donc j'étais en train d'acquiescer à tout ce qu'elle est en train de dire.
D'autant plus qu'on a cette impression où quand on est en studio, plus on y est, plus on s'améliore dans notre art, dans notre façon de poser notre voix. Enfin, je veux dire, c'est une vraie discipline en réalité. Mais quand on intercale pas des moments de vie là-dedans, finalement, la façon dont on incarne la musique est forcément entachée. Et je me suis rendu compte que vivre, c'était quand même pas mal.
Ouais, le studio, c'est dangereux, en fait.
Que le studio.
Moi, j'en suis tombé malade.
C'est vrai, vous aussi?
Ouais, lui, c'est un fou, là.
Ouais, je suis un truc.
Il peut rester 4 jours sans.
Ouais, sans dormir, je restais des cheveux des 2-3 jours.
Il est tombé amoureux du Pro Tools, le mec.
J'ai fait un projet.
Mais c'est un
Le Pro Tools, c'est sa meuf.
C'est de la création.
Ouais.
Vous avez repris le dessus, hein, Stomy. Ça va bien.
Il revient,
parti de 22h47. Ça recommence, ça va, là.
Il est marié au Pro Tools.
Vous avez passé quelques temps à Madagascar, donc enfin, vous avez pris quelques vacances. Je rappelle que vous êtes d'origine franco-malgache, malgache par votre père. Qu'est-ce que cet album doit à ce séjour, à ce voyage qui vous rattachait d'une certaine façon à vos origines, Sheila ?
Attendez, malgache, t'as un nom long là aussi ?
Très moins long que les autres.
C'est lequel alors, le vôtre ?
J'en ai dans long !
Moi, c'est la Narvel, ça va.
Ah bon, non, c'est rien.
Ça va.
Petite joueuse. Ouais.
Mais c'est vrai qu'en fait, donc ça faisait 6 ans que j'étais en tournée, j'avais sorti un EP, 2 albums, tout le temps en studio. Et en fait, sur le deuxième album, la problématique, c'est que moi, je pensais être dans un processus de créativité. Or, je suis rentrée dans un processus de travail de pensée. Penser à ce que les gens pouvaient attendre de moi, penser à ce que l'industrie pouvait attendre de moi, moi, ce que je voulais donner, ce que je voulais conserver dans mon intimité. Il s'avère que lors de la tournée, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de jouer à Madagascar. Et là, symboliquement, la boucle est bouclée, vu que mon père m'a transmis la musique, c'est lui qui m'a transmis cette forme de talent. Et c'est la première fois que je retournais à Madagascar depuis 2011. Et je me suis dit, bon, bah, je vais en profiter. En plus, c'était une date où j'étais avec tous mes pères. J'étais avec Debal de Neg, Nutty, Youssoufa, enfin bref, toute une équipe bien gaulerie.
Ah, t'étais dans un bourbier.
Dans un bourbier. Non,
je les connais, final... les jumeaux du Bissau, là.
Et c'est vrai que je me suis dit, je vais en profiter pour voir mes cousines partir en road trip pendant 2 semaines. Et en fait, mais c'est trop bien les vacances.
Bah,
franchement,
bien sûr.
C'est trop bien. Et j'avais pas fait de studio. Du coup, j'ai pas fait de studio pendant 2 mois. Je suis rentrée, le premier morceau que j'ai fait et le titre qui est l'outro de l'album qui s'appelle Elle.
C'est trop bien les vacances.
Eh ben, Elle, c'est celui qu'on va écouter tout de suite. Un titre à plusieurs vitesses.
Ce monde part en vrai, l'amour en parenthèse. Je vois des hommes déchus sous les parvis noyés dans leur taille. Les démons dansent en commentaire, nos esprits se renferment. L'espoir fait vivre, à trop le chercher, parfois on en crève. Je pensais être encore une ado, mais ça fait 10 ans que j'ai passé le bac.
J'espérais voir la vie en rose. Les rues de Paris, elles sont pavées de craquettes. Le malaise dans le regard des passants. S'arracher la gueule est un passe-temps. Ignorer les autres, par contre il faut leur dire que leur mère est une sale tympe. Je suis dans le contrôle, j'ai des névroses. L'écho surdimensionné. Mon corps endosse, les nerfs explosent. Je suis pas mal intentionné. Puis je console ma mère. J'ignore ce que fait mon frère. Mon père là-haut doit se demander pourquoi je me fous en l'air. Je trace au parloir, le cœur serré, mon amour emprisonné. Tout le monde pourrait perdre la santé si les mots sont ignorés. Car le silence a détruit des âmes. Si t'en dis trop, tu finiras trahi. Plein de drogues sur leur Snapchat, ils sont fucked up. Les petits kiffs, ça, ils scrollent. Putain, quelle époque de merde. Je regrette la naïveté de ma jeunesse. Demain sera plus dur que la veille. Je blâme pas ceux qui se mettent une balle dans la. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Y'a le présent qui m'appelle. Quand plus rien ne m'inquiète, c'est que j'ai ta voix qui m'entête. Quand j'ai peur, je prends mon pouls, je suis de mauvaise humeur. Je vais casser les couilles, je dois poser du sale. Je commande un café, mets-moi du lait et des glaçons. Je parle à mes potes de mes doutes, et dans la pudeur, j'ai caché mes courbes. Dehors, c'est la foire, beaucoup m'ont lassé. Autant les go que les garçons. 7h du matin, je suis dans le métro. Je cours, j'ai des gouttes de sueur. Coucou, je serai pas à l'heure, je suis folle, sentimentale. Blasé le dimanche soir, lundi, je bois que du noir. Fin de semaine en Espagne, mauvaise humeur en escale. Laisse tomber, je suis dans. Mood, ouais, faut que je décale à LA. Laisse tomber, je suis dans mon mood, ouais, faut que je décale à LA. Laisse tomber, je suis dans mon mood, ouais, faut que je décale à LA. Laisse tomber, je suis dans mon mood, ouais, faut que je décale à LA. Les années passées, elles vont trop vite, je suis tellement. On n'a pas fait ça pour le bif, mais il faut du bif, je ferai le taf jusqu'à la mort. Heureusement qu'on a pris des risques, cet élément, élément, élémentaire. J'ai pas 200 potes sur ma liste, mais j'ai les reels et la mif, je les aime fort. Épuisé par la nocivité, les nuages d'essence, j'ai augmenté ma vie. C'est mon petit cœur qui est fragile. En avril, on lance les hostilités, on fly en décembre. Tout ce qu'on a fait, c'est magique, il reste tellement de choses à faire. Laisse tomber, je suis dans mon mood, ouais, faut que je décale.
Elle est un titre à tiroir, extrait de 333, troisième album pour Sheila, Stomach Bugsy.
Bravo.
Vous lui avez même pris la main pour la saluer.
Magnifique, ouais. Magnifique. J'ai adoré le morceau, j'ai adoré les punchlines, sa voix, la mélodie,
les soupirs que l'on entend de temps en temps dans les blancs.
Bravo, ouais. Ouais, ouais, les placements et tout.
Les placements, ouais. C'est vraiment excellent. Placements.
Moi, j'ai entendu depuis ce qu'elle a dit, même pour son album, elle était... tu sens un mood quand même, un mood assez sombre, assez renfermé, etc. Donc, ouais, j'attends aussi de voir l'autre mood. J'aime bien voir les deux côtés.
Mais là, il y en a plusieurs.
Le mood folle, délire, je sais pas si elle a fait sur l'album.
Mais elle y est dans la musique, en fait. Les paroles sont plutôt sombres, mais la musique vient jouer le contrepoint.
Non, les paroles, il n'y a pas de problème. On sait qu'elle va toucher, tu vois. C'est l'autre mood, après, elle a poussé dans d'autres retranchements.
Un mot sur le titre de l'album, 333 en numérologie. Il est interprété, j'ai lu, parce que je n'y connais rien, comme un message des anges ou de l'univers, indiquant une période de grande créativité, d'abondance et de soutien divin. Soutien divin, rien que ça ? Il y a une dimension spirituelle ?
Alors, je suis allée chercher la dimension spirituelle après m'être dit qu'à la base, je savais pas quoi prendre comme titre pour l'album. J'avais pas les mots, donc je me suis dit, je vais mettre des chiffres.
Mais quand même, il y a quelque chose. Il y a un titre qui s'appelle 3 ans. Dans un précédent album, il y avait le titre qui s'appelait 13 ans. 333. L'EP s'appelait EP plus 33.
J'ai fait mes petits calculs.
Vous avez 30 ans. Enfin, il y a quand même quelque chose.
Ça y est, on a gagné le 3, c'est son
exactement.
Chiffre.
Exactement. C'est votre chiffre. C'est le troisième album. J'ai 30 ans. Relation de 3 ans.
Ah la merde.
Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, j'ai pas les mots, je vais mettre un chiffre. Et il s'avère qu'il y a quand même un leitmotiv dans ma carrière qui est que je me sens assez soutenue par les étoiles si je pars du principe que mon père en fait partie. Et ce soutien divin, je le ressens chaque jour. Que Dieu fait quand je me lève le matin et que j'ai la chance de vivre de ce que j'aime.
Dernière chose, avant vous étiez trois aussi sur scène, hein, DJ, pianiste et vous, pour, mm-hmm. pour ce nouvel album, combien ?
On sera toujours trois.
Wow,
on parle d'un sujet qui est tellement, mais tellement émotionnel pour moi. Parce que je vais changer de formation, en effet. Je vais changer de formation. Je vais être uniquement avec des musiciens, cette fois-ci. Mais vu que mon DJ est toujours mon meilleur ami, c'est quelque chose que je vis très mal. Mais je me dois de le faire pour l'art.
Père pianiste, il voulait que vous chantiez avec lui. Aujourd'hui, je pense qu'il peut être fier de là où il vous regarde. Sur cet album, deux invités, Kobo et Diziz, qu'on entend sur Petit Cœur. Diziz que vous avez invité, Diziz métisse comme vous. Est-ce que c'était important dans l'invitation que vous lui avez faite ?
Bah en fait, la collaboration, elle s'est faite de façon inattendue puisque c'était un album dans lequel je recherchais pas forcément de collaboration particulière, si ce n'est Kobo que j'avais sollicité. Et en fait, Diziz, on a eu la chance de se rencontrer lors d'un tournage et je lui ai fait écouter mon album comme une artiste bien égocentrique qui attendait d'avoir un retour sur son projet de la part d'un artiste qu'elle admire et qu'elle écoute. Ouais. Et en fait, il s'avère que lorsqu'il a écouté le titre Petit Cœur, il m'a dit qu'il adorait. Et la connexion s'est faite naturellement. Et en fait, c'est vrai qu'avec Diziz, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de points communs, ouais. notamment sur ce métissage, mais qui nourrit notre musique et qui fait qu'on a du mal à nous identifier, qu'on est assez éclectique dans ce qu'on propose, qu'on peut passer du coq à l'âne musicalement. Et lui, maintenant, il est arrivé à un climax au niveau de sa carrière où il a su faire des sacrifices à certains niveaux pour vraiment créer un univers
et même
cohérent.
Et même disparaître complètement pendant
exactement.
Quelques temps.
Ouais. Ouais. Et moi, du coup, ça a été très salvateur et formateur d'en discuter avec lui et qui plus est de partager un titre avec lui. C'était assez inespéré, donc je suis très heureuse de l'avoir sur le projet au même titre que Kobo, que j'adore.
Côté club, fin de partie, bien c'est le moment des adieux. Merci Passy, merci Stomach Bluesy.
Merci pour l'invite, c'était une très belle émission.
Les dates de la tournée de Ministère Amer sont le 3 octobre à Dijon, le 4 à Reims, le 5 à Hotswald, le 10 à Tourcoing, le 11 Paris, La Cigale, le 17 à Grenoble, le 18 à Nîmes et plein d'autres dates à retrouver sur les internets. Sheila, merci beaucoup,
merci
à vous. Je le dis trois fois. Votre album c'est 333 avec des rendez-vous sur scène 1er novembre à Reims, 2 et 3 Paris, La Maroquinerie, 7 novembre à Limoges, le 8 à Orléans, le 9 à Saint-Avé, le 13 à Bruxelles et plein d'autres dates jusqu'en février pour le moment. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
C'était qui ?
C'était un mec qui cherchait un Guillaume Tranchant.
Bah, c'est moi.
Gringe ? C'est toi Guillaume Tranchant ?
Bah ouais. Il y a plein de mecs qui te recherchent en fait.
Eh bien, on l'a retrouvé, il sera là demain, Gringe à ses côtés, LMA. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique ce soir, Arnaud Caillet. Programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer. Au playlist, Valentine Chedebois. Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée.
Je vous French kiss.
Oui.
Avec la langue française.
Bye, bye.